Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. J-2 avant la finale, la Ligue des Champions, c'est tout droit la deuxième étoile pour le Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, on a que des supporters du Paris Saint-Germain autour de la table aujourd'hui. Vous allez vous régaler,
ouais.
Une grande, grande émission qui s'annonce. On est avec Benoît Boutron, un grand fan du PSG. Salut Benoît.
Salut Jérôme.
Je t'ai vu faire la queue au nouveau maillot là.
Ouais.
T'aurais dû me le dire, au moins tu serais passé. Oui.
Moi, priorité. Si j'ai un maillot du PSG, je le floque Jérôme Roten.
Bah, je sais, ouais, mais il y en avait beaucoup là.
Ah, bah oui, bien sûr.
Ouais, donc, j'étais obligé de prendre un petit cachet quand même. Non, petit cachet parce que, bon, les droits d'image.
Je comprends.
Ouais.
Bah, donc, c'est ça, la vie de star.
Exactement.
Ouais.
On est avec, je vous ai dit, une émission. Beaucoup de fans du Paris Saint-Germain.
Ici, c'est Paris.
Il y a Manu Petit, il est excité comme.
Ça va, les gars?
Ah,
moi, j'ai une couette de Jérôme Roten chez moi. Je dors avec toi, tu vois.
Hein, c'est vrai?
Ouais. Tu dors avec
moi. Tu rigoles ou quoi? Tu m'as vu avec une couette.
Ah, j'ai cru un moment. Ah ouais.
Là, sérieusement, tu me vois avec une couette du PSG avec la tête de Jérôme Roten et quand je dors avec ça.
Mais qu'est-ce qui est choquant?
Bah.
Non, mais les gars.
Et quoi?
Bah, c'est pas pour toi, peut-être que ta femme apprécierait.
Non, mais c'est ça, ouais. Ma femme, essaye. Alors, juste pour ton info, écoute, je dors tout seul.
C'est vrai qu'elle est punie.
Je dors tout seul.
D'accord. Ouais. Ah,
par contre, quand il la croise.
Allez, enchaînez.
On est avec Stevie Savidan, un grand supporter du football français, du Paris Saint-Germain.
Ah, du football français, oui, bien sûr.
Salut Stevie.
Bien sûr.
Moi, j'ai pas la couette Jérôme Roten, j'ai juste le slip, et puis je t'annonce que la tête, non, où elle est,
ça te dérange, hein. Comment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais attends.
Non mais oh.
Je te chie dessus.
Je te dirais que toi, t'as fait un match cette semaine. Je crois que t'as chié sur tes coéquipiers parce que franchement, t'es mauvais.
Allez, on arrête les gros mots, les vulgarités.
Il y a des enfants qui nous écoutent.
Exactement.
Vrai, hein.
Et en plus, c'est un grand Roten sans flamme avec beaucoup d'actu, mais surtout, nous sommes à 48 heures de la finale de la Ligue des Champions. Jérôme, incroyable. La deuxième étoile pour le Paris Saint-Germain. Ça va être fou. 18h samedi.
J'ai entendu dire que tu préférais la deuxième étoile.
Elle était dans l'ombre et là, elle commence à sortir avec le soleil. Ah, Manu, tu la sens, la fessée.
Il a dit, Jérôme.
C'est possible.
Il m'a dit je préfère que le PSG remporte la Ligue des Champions plutôt que la
troisième étoile de l'équipe de France. Mais quelle honte
tous les clubs. Jours.
Voilà, il l'a dit. Il a dit,
sérieux, il a dit ça.
Il a dit ça.
De grands débats.
T'aimes pas ton pays en fait.
Vont animer.
Non, t'aimes pas ton pays.
J'aime mon pays, mais j'aime Paris.
C'est ça.
Paris, c'est la capitale de notre pays.
Manu, alors donc j'aime le PSG et j'aime mon pays.
Je préférais que le Paris Saint-Germain gagne la championnat.
Elle arrive en premier. Elle arrive en premier.
Tu n'es pas patriote.
Voilà, exactement.
À quoi tu vas dire ça, moi?
Vous le voyez, ils sont très excités. À 19h, Roten se chauffe.
Combien de fois j'ai défendu, moi?
Un débat pour toi, Manu, à 19h. Arsenal sera-t-il un beau champion d'Europe? 32-16 pour en débattre avec nous. À 18h45, les supporters emblématiques du Paris Saint-Germain qui sont mis à l'honneur. Ce soir, ce sera Jean-Marc. Il vit à Annecy, il fait tous les déplacements du club. Il nous racontera ça, il file à Budapest pour samedi et la finale. Et puis l'actu nous rattrape. À 18h30, le procès de tous ceux qui pensent qu'il faut conserver Neymar dans la liste du Brésil. Il est blessé, touché au mollet. Absence de 2 à 3 semaines.
Touché,
il va manquer le premier match de la Coupe du Monde du Brésil face au Maroc, donc on en débattra avec vous à 18h30 et puis à 19h30 beaucoup d'actu Ligue 1 aujourd'hui. Deux jeunes coachs qui vont débarquer en Ligue 1, Davide Ancelotti, le fils de Carlo, a priori à Lille, et Luis Felipe. Il était au Brésil, à Botafogo. Le
club, les deux viennent du Brésil en fait.
Tout à fait. Luis Felipe qui lui a fait une super campagne avec Flamengo, 5 titres remportés, qui va débarquer à l'AS Monaco. Il y a toujours notre jeu de la liste des 26, Jérôme, pour remporter peut-être jusqu'à 10 000 euros. C'est l'avant-dernier jour, 10 000 euros à gagner ou alors le pack Coupe du Monde avec un vidéoprojecteur, un maillot des Bleus, le ballon officiel, la boîte Lego du trophée. Vous restez à l'écoute et dès que l'alerte tombe, vous envoyez liste par SMS au 732-16. 18h04 sur RMC. Jérôme, alors c'est qui le plus fort? Arteta ou Luis Enrique?
Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord. Mais j'aurai ma vengeance.
Faudrait déjà avoir des gens qui ont les compétences pour ça.
J'essuie les parpaings en permanence.
Personne ne frappe aussi fort que lui. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant.
Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase des groupes?
Moi, on m'a appris que quand je savais pas, il valait mieux que je me taise.
Freedom my ass!
Je peux pas voter
pour autre chose qu'Arteta, en fait.
Vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde ?
C'est pas d'un goût de un coup de baguette magique que tu vas tout changer.
J'ai rêvé aucune équipe meilleure que nous. Quand tout le monde critiquait, je ne me ratais pas.
Qui est meilleur ? Qui est meilleur ?
Le PSG a fait tomber le Bayern. Le PSG est donc en finale de Ligue des Champions.
RMC, finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Arsenal.
J-2.
On a dit être samedi 18h la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, deux coachs espagnols face à face, Luis Enrique d'un côté, Mikel Arteta de l'autre. On en parle dans un instant parce que Edgar Groslo, notre correspondant en Espagne, qu'on salue, est monté à Paris. Salut Edgar.
Salut tout le monde.
Exactement, Edgar est parti sur les traces de Luis Enrique d'ailleurs, dans les
Açores.
Voilà,
très sympa.
Tu vas nous raconter tout ça.
Chercher des vacances.
Prenons des nouvelles fraîches des Parisiens avec Fabrice Hawkins, l'homme des infos.
On a une deuxième fraîche avec nous.
Salut Fabrice. Raconte-nous ce qui s'est passé cette semaine. Comment Luis Enrique a préparé cette grande finale de Ligue des Champions, Fabrice?
Après deux jours de repos, donc dimanche, lundi, ils se sont entraînés mardi, mercredi et donc ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Luis Enrique aura à disposition tout son groupe. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé se sont entraînés normalement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. À voir après les choix qui seront faits par Luis Enrique samedi. Donc sur l'aspect technico-tactique, entre guillemets, il y a deux grosses séances vidéo qui ont été organisées par Luis Enrique. Une vraiment sur l'aspect défensif, l'autre vraiment sur l'aspect offensif. Et puis, il a dû composer aussi avec la chaleur, Luis Enrique. Ouais. Ça vous aura pas échappé. Les températures ont vraiment grimpé. Et face à ça, il y a une gestion des efforts. On a demandé aux joueurs de pas trop pousser à l'entraînement.
Ah,
donc voilà, sinon tout va bien. Au niveau de l'ambiance, évidemment, elle est toujours aussi bonne entre les joueurs. Les dirigeants ont échangé aussi avec les supporters. C'était juste après le petit match amical qui a été organisé au campus PSG samedi dernier. Donc l'ambiance est vraiment bonne entre les dirigeants, les supporters et aussi entre les joueurs, et c'est important avant cette grande échéance.
Le départ pour les Parisiens, c'est demain matin hein, pour
Budapest. Exactement, aux alentours de 10h, ils vont arriver aux alentours de midi donc à Budapest. Conférence de presse à 15h30 à la Puskás Arena, entraînement à 16h45, donc ce sera le dernier avant le match.
Et surtout, départ de la cellule PSG d'RMC, demain matin aussi, Fabrice Hawkins sera mobilisé avec Jean-Louis Tour, ça va être fantastique, notamment Arthur Perrault.
Mais attention. Hein,
et demain, Rotten sans flamme spécial finale de la Ligue des Champions. Edgar est donc là parce que je l'ai dit, il est parti sur les traces de Luis Enrique en Espagne. Mmh. Edgar, c'est un personnage qui est adulé dans sa région natale.
Oui, il est adulé. On me disait, c'est l'idole absolue de tout Asturien, en fait. Déjà, par rapport à tout le succès qu'il a eu, d'abord en tant que joueur, ensuite en tant qu'entraîneur, par rapport à son parcours, parce que il a commencé dans un petit club de futsal à Gijón, ensuite il a joué au Sporting de Gijón, il est allé dans un autre club de la ville qui s'appelle le CD Labraña, il a recommencé sa carrière professionnelle à Gijón une nouvelle fois au Sporting de Gijón. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait toutes ses bases, qui a appris à jouer au foot dans la région. Et il est surtout adulé finalement, non pas grâce à tout ça, mais aussi grâce à sa personnalité. Parce que je suis allé justement dans l'un de ses clubs, le CD Labraña, ouais. Et là-bas tout le monde me disait en fait il est comme nous. En fait cette personnalité, ce caractère que tout le monde connaît de Luis Enrique, on l'a tous. C'est-à-dire le fait de vivre les choses très intensément. On me disait de vivre les choses à 110%. Le fait d'être toujours de bonne humeur, mais aussi de savoir mettre des tacles, d'être direct. C'est-à-dire que c'est des gens très directs, qui savent aussi être très chaleureux, mais tu sens aussi quand quelque chose va pas pour eux. Et donc par rapport à sa personnalité, c'est presque le cliché de
l'Asturien. Symbole de la région. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et ce qui était sympa, c'est que il y a son premier mentor qu'il connaît depuis qu'il a 7 ans, qui s'appelle José María Fernández de Brito, qui nous a accueillis chez lui. Ouais. Et lui, il nous racontait que dès le plus jeune âge, il était déjà comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai chef d'orchestre. Écoutez.
Les caractéristiques que vous appréciez aujourd'hui chez Luis Enrique, on les appréciait déjà quand il était petit. Luis Enrique était souvent avec son frère Felipe et Abelardo. Ils formaient un trio dans lequel c'était lui, celui qui dirigeait. Le frère faisait ce qu'il disait et Abelardo était le trouillard. Déjà à l'époque, Luis Enrique avait cet esprit de diriger, de dire « c'est moi qui commande et on va faire ça comme ça ». C'était quelqu'un de très combatif comme sur le terrain aujourd'hui. En plus, c'était un joueur qui était ambidextre, il frappait aussi bien du gauche que du droit.
On a compris pourquoi il aimait Ousmane Dembélé, alors, certainement ça. Magnifique reportage à retrouver sur rmcsport.fr en plusieurs épisodes.
Et le Abelardo dont il parle, c'est le joueur qui a joué après au Barça.
Bien sûr, grand joueur de foot aussi, grand joueur de foot espagnol. Comment l'Espagne se positionne sur ce duel Arteta-Luis Enrique dont on va débattre? Est-ce que il y a vraiment photo entre les deux, sachant qu'il y en a un qui a déjà été sélectionneur de l'équipe nationale et l'autre qui finalement est exilé depuis longtemps en Angleterre?
Déjà, ça dépend où tu poses la question.
Ouais, c'est sûr.
Parce que Luis Enrique, par exemple, il est pas très apprécié à Madrid, même si Arteta, évidemment, aussi un passif avec le Barça et avec d'autres régions d'Espagne. Mais je pense qu'il n'y a pas photo, en tout cas, dans ce qu'ils ont apporté footballistiquement en tant qu'entraîneur pour l'instant, et surtout aux yeux des Espagnols. Mmh. Dans le sens où les Espagnols, et déjà, il y a une fierté immense d'avoir beaucoup d'entraîneurs qui fonctionnent bien en ce moment, mais il y a surtout la fierté immense de voir le jeu qui est proposé par Luis Enrique, parce que pour eux, en fait, c'est la philosophie de jeu espagnole. Ouais. Qui brille devant le monde entier. Arteta, ils sont très fiers de lui et ils trouvent ça génial. Et encore ce matin, il a donné une interview, par exemple, dans Marca. C'est ouais. vraiment quelqu'un d'important. Et ils sont fiers qu'il y ait un entraîneur qui gagne la Première Ligue. Mais le jeu d'Arteta correspond moins, le jeu actuel en tout cas, à la philosophie espagnole. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette fierté peut-être additionnelle, en tout cas pour quelqu'un qui est neutre et qui déteste pas Luis Enrique parce qu'il est fan du Real, par exemple. Il y a ce petit truc en plus avec les équipes de Luis Enrique.
Tu restes avec nous, Edgar. C'est la une de Rotten sans flamme sur RMC à J-2 de PSG Arsenal. Luis Enrique Arteta. Qui a le plus de mérite cette saison, Jérôme Rotten, alors?
Écoute, plus de mérite, pour moi, c'est encore une fois, c'est Luis Enrique. Je vais te dire ça parce que Arteta, il est à Arsenal depuis plus longtemps que Luis Enrique. Avec des moins bons résultats. Alors je te dis que la Première Ligue c'est plus dur que la Ligue 1, ça c'est une certitude. Et pourtant il l'a gagné cette année, donc ça on le félicite. Mais c'est pas pour autant que d'un seul coup je dis ouais bah il a plus de mérite. Non, ils étaient programmés. Hein. Manu il est là sous contrôle de ce que je vais dire. Mais
ils ont fait trois fois deuxième de Première Ligue.
Bah oui, ils étaient donc programmés cette année pour encore viser le titre. Alors après c'est pas le tout de le viser et d'avoir cet objectif là. Il faut assumer. Ils ont profité que certains grands clubs n'étaient pas au rendez-vous et que Manchester City, par rapport au changement de joueurs et de groupes, était moins fort que l'année dernière, il y a deux ans. Donc, à partir de là, Arsenal a fait six premiers mois qui étaient impressionnants. C'est pour ça que moi, je mets le pied sur le frein sur les critiques en termes de jeu, parce que les six premiers mois, c'est pas un hasard d'être là, d'être placé comme ça, parce que Arsenal, vraiment, jouait bien au football. Après, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte et peut-être que, et c'est même sûr, le côté défensif a pris le pas sur le côté offensif du côté d'Arsenal, même s'ils ont continué à marquer beaucoup de buts. Et pourquoi je te dis Luis Enrique qui a plus de mérite? Parce que Luis Enrique, je vais pas parler de la Ligue 1 parce que on est là, on en parle tous les jours dans Rotten sans flamme avec Manu, avec Steve et avec toute la bande. Bien sûr que la Ligue 1 et encore plus cette année avec le fait que certains clubs de grands clubs n'ont pas été au rendez-vous, ont perdu beaucoup trop de matchs, trop irréguliers, que je te dirais c'était quasiment finger in the nose pour le Paris Saint-Germain. En ayant vu, si tu veux, cette année, des lacunes dans le championnat, parce que le PSG est pour moi en championnat n'est pas le plus beau champion de l'ère Luis Enrique en championnat, je te parle.
Ouais,
après en Ligue des Champions, là où il a du mérite, c'est que il fallait enchaîner les compétitions, très peu de vacances. Là, c'est pas que de sa faute, c'est la faute du calendrier. Donc, il a fallu gérer les organismes. Il y a eu beaucoup de blessures, surtout sur la première partie de saison et des joueurs cadres. Et ça, il a fallu donner sa chance. Mais ça, c'était la politique du club. Donner sa chance à des plus jeunes pour que les résultats restent quand même assez importants pour avoir ses objectifs de fin de saison. Mmh. Et il a réussi ça. Et après, surtout, il a réussi à reprogrammer cette équipe. Et ça, c'est une performance pour moi, parce que personne, et moi le premier, les voyait à ce niveau-là aujourd'hui. Quand tu vois le 16e de finale contre l'AS Monaco, tu te dis, mais le PSG, cette année, ils pourront pas être champions d'Europe. Il y a trop de lacunes, des joueurs qui arrivent pas à retrouver un certain niveau. Et puis, je sais pas. Alors, il a de la réussite parce qu'il y a moins de blessures. Les grands joueurs
oui,
sont là sur les grands matchs.
Au bon moment,
exactement.
Aussi.
Mais il a su, si tu veux, reprendre le dessus et remettre sa méthode qui fonctionne à merveille aujourd'hui. Donc oui, pour moi, Luis Enrique a plus de mérite. C'est toujours plus dur de confirmer une deuxième année après avoir fait une année dernière exceptionnelle.
Bah, deux finales de suite en Ligue des Champions, ce n'est plus.
Et puis c'est l'équipe et Zidane. Manu, qu'est-ce qu'on pense? C'est l'équipe qui était attendue quand même.
Oui, d'accord. Mais j'ai du mal à choisir. À choisir entre les deux. Parce que les deux ont tellement de qualités. Il y a très peu de défauts de chaque côté et beaucoup de qualités de chaque côté. Cette question, en plus, elle est sournoise. Tu me l'aurais posé dimanche matin, je t'aurais répondu.
Ah bah oui, mais là, c'est moins drôle de faire les débats après.
C'est moins drôle de les faire. Mais non, au contraire.
Justement. Ah non, il vaut mieux les faire avant les débats. Ah
bah, mais qu'est-ce que t'es sournois?
Beaucoup sont convaincus intimement.
Oui, mais après, la réponse, elle est évidente.
Mais non, elle n'est pas
dimanche
évidente.
Matin.
Non, bah, parce que dans la tête de beaucoup de gens, tout le monde pense que c'est Luis Enrique par rapport au jeu qu'il a mis en place.
C'est pas l'avis de Steve. Bah,
non, mais c'est ce que je te dis. Moi, j'ai un immense respect pour ce que fait Luis Enrique depuis son arrivée. Le fait aussi, avec toutes les difficultés en partant de la Coupe du Monde des clubs, avec toutes les blessures, la gestion. Alors, en même temps, quand tu joues en Ligue 1, tu peux avoir une gestion quand tu as 800 millions d'euros de budget.
Les champions avec une équipe
face à des équipes qui sont des sparring partners la plupart du temps en phase de temps en championnat. Donc, je mets quand même un bémol.
Relativise, si tu veux, sur le championnat.
Je mets un bémol quand même. Mais le parcours en Champions League, quand tu vois les gros qu'ils ont éliminés jusqu'où ils sont allés.
Ah oui.
En ayant la même justesse et la même détermination que l'année dernière, ça pour moi ça c'est un exploit. Ceci étant dit, s'ils perdent samedi contre Arsenal, ta question, tu la prends, tu la mets à la poubelle, parce que dans l'imaginaire de tout le monde te répondra, bah c'est Arteta, puisqu'il a fait un doublé. De l'autre côté, Arteta, c'est la même chose. Ça fait 3 ans qu'ils finissent deuxième consécutivement, qui flanchent sur les dernières semaines de chaque fin de saison pour les mêmes raisons. Tout le monde dit que c'est sur le plan mental, c'est pas vrai. C'est en perdant des joueurs majeurs à chaque fois sur le 11 titulaire parce que le banc de touche n'était pas ce qu'il était depuis le début de saison. C'est aussi simple que ça. Mentalement, tu peux.
T'as jamais cru à l'aspect mental, toi?
Non, tu peux très bien dire que City aussi a flanché contre Everton il y a 15 jours, alors qu'ils avaient le match en main, ils gagnaient 1-0 à la mi-temps.
Vrai.
Donc, tu peux toujours trouver ce que tu veux dire. En fonction de l'angle dans lequel tu approches et tu regardes les choses. Moi, ce que je dis, c'est que, est-ce que vous connaissez un entraîneur dans le monde du foot qui finit 3 fois deuxième dans le championnat le plus dur au monde et qui, à chaque fois, avec la même équipe, repart au combat et cette année gagne?
Enfin, il a un peu de recrue quand même.
Il
s'est adapté aussi. Il a montré qu'il savait s'adapter.
Oui,
de jeu.
Ce qui fait la diff cette saison, c'est que, qu'il a des rotations à chaque poste.
On a été joueur. On sait très bien que quand tu vas au combat pendant toute une saison et que tu échoues, que l'année qui suit, tu échoues encore à quelques encablures du titre et que tu échoues une troisième année consécutive pour les mêmes raisons.
À remobiliser tout le monde, c'est dur.
Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette niaque que tu transmets à tes joueurs fédérateurs en disant, voilà les gars, on va y arriver un jour. Et cette année, ils sont arrivés.
Ça, c'est sûr.
Est-ce que c'est une surprise, une coïncidence de voir que l'année où ils gagnent le titre, ça coïncide quasiment avec la dernière finale de la Champions League d'Arsenal contre le Barça.
Manu, t'es le premier à nous dire que c'est peut-être la première ligue la plus faible depuis des années aussi. Hein.
Oui, je sais, d'accord, mais regarde les Coupes d'Europe, qu'est-ce qui les gagne cette année?
Oui, d'accord.
Non, mais il n'y a pas de d'accord, je veux bien, tu critiques la première ligue, je suis le premier à dire que le niveau de la première ligue n'est pas bon. Ça veut dire quoi?
Ah, t'es en train de me dire que c'est jamais 203.
Non,
la densité anglaise est plus intéressante et elle est plus importante.
Ah, voilà, donc on revient.
Ce qui compte, c'est la compétition reine.
On peut les critiquer en disant que cette année, c'est pas un bon cru en termes de Premier League, mais en même temps tu vois que toutes les finales Coupe d'Europe, c'est les Anglais qui les gagnent,
oui,
et on verra ce qui va se passer samedi.
Ouais,
non, mais tu dis oui, d'accord.
Ah, mais si tu te contentes de gagner des Conference League quand t'es en Première League, ok, il y en a eu 5, ils en ont gagné 3, super, bravo, t'as gagné la 3ème.
Pourquoi la France ne le gagne jamais?
Mais parce que la France n'arrive jamais à gagner une Coupe d'Europe après le PSG.
Donc tu trouves toujours une excuse pour tous les arguments que je vais te présenter. Donc c'est ce que je te dis, tu vois en fonction de ce que t'as envie de regarder.
C'est le principe des
débats. Donc pour revenir à ta question initiale, moi je ne pourrais pas me déterminer. Pour moi, c'est match nul.
Okay.
Parce que les deux ont réalisé un exploit incroyable.
Non, mais là,
Steve, toi, t'as un avis tranché.
Ouais. Vas-y, Steve.
Bah oui, moi, j'ai un avis tranché. Pour moi, pour celui qui est le plus méritant pour tout ce que vient de dire Manu et Jérôme, pour moi, c'est Arteta. Parce que déjà d'une, quand Arteta, faut prendre l'histoire, c'est quand Arteta reprend Arsenal, il rebâtit un club, une identité. Franchement, ils arrêtent pas de se prendre gadin sur gadin. Lui, je le vois, mois après mois, année après année, il doit se faire virer. Il est critiqué partout.
C'est normal, et t'as investi, ça fait 5 ans que tu gagnes rien.
Oui, mais il tient parce qu'il a une logique de construction, de rebâtir ce club pour arriver sur les plus grandes d'Europe, comme à l'époque où Manu, Robert, tout le monde y était. Ça, franchement, là-dessus, on peut pas dire que Luis Enrique, quand il a pris le club n'avait pas d'identité. Ce qu'il fallait qu'il fasse, c'était simplement réorganiser et faire des choix très forts.
Mais tu plaisantes ou quoi? Mais on était la risée de l'Europe.
Non, mais Didier Lariset, pourquoi? Parce que attends, t'as quand même fait finale, t'as quand même fait demi-finale très souvent.
Mais t'as avec l'investissement, avec l'investissement qu'il y avait, mais c'était honteux, même l'image du club.
Parce que c'était des... Non, mais Jérôme, laisse-moi finir. C'était par rapport à des choix. Ils avaient bâti à chaque fois leur stratégie sur une ou deux superstars. Jusqu'au moment où là où les deux superstars, les trois, ça part en couille complet. Et donc là, Luis Enrique, où il a eu été fort, c'est là il a eu à faire des choix. Donc je minimise pas ça. Il faut quand même pas négliger l'impact qu'il y a week-end par week-end à gagner un championnat. Cette année, Paris, allez, ils ont été titillés jusqu'au mois de mars. Honnêtement, jusqu'au mois de mars, où Lens n'arrive pas à prendre le point d'avance. Mais sinon, même en ayant leur top player sur le premier semestre de cette saison, ils étaient premiers et loin devant, ils dominaient la Ligue 1. Donc même avec leur équipe réserve. Arteta, il n'avait pas cette souplesse de banc. Et faut pas négliger non plus que les joueurs qu'il a fait monter. Franchement, quand tu regardes Saka, Odegaard, Saliba, Rice, comment il les a fait progresser. Et là, t'arrives, honnêtement, sur le côté culture tactique des deux équipes, là, à la limite, ils sont égalités. Ils ont chacun leur identité de jeu, leurs points forts. Là, honnêtement, il n'y a pas de souci. Je reviens à ce que disait Manu. On verra qui va gagner ce week-end, parce que là, quand même, on spécule quand même avant ce week-end. Mais moi, pour moi, le plus méritant dans le travail au quotidien et depuis plusieurs années et d'avoir tenu, pour moi, c'est Arteta. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, honnêtement, je le vois que là-dessus.
Tiens, accueillons Damien, supporter du PSG, qui a son avis sur la question.
Salut Damien.
Salut Jérôme, salut à tous.
Bienvenue Damien. Alors, c'est quoi est-ce que t'as réussi à trancher?
Un supporter des Viantonon.
Non, un supporter de Christian Valois. Mais c'est pas très loin. Pas trop loin de Paris, ça va. Non, mais moi, mon avis, c'est que, bien sûr, c'est Luis Enrique qui est le plus méritant,
des deux. Ils sont étonnés.
Mais forcément, mais je vous dis pas, c'est pas par rapport à la préparation de la saison qui a été tronquée, à tous les blessés. Il y a le parcours en Ligue des Champions. Enfin, il y a énormément d'arguments en faveur de Luis Enrique. C'est dur de faire un back-to-back. Il y a très peu d'équipes qui l'ont fait. Je pense que le parcours en Ligue des Champions, quand on regarde Chelsea, Liverpool, Bayern, il est quand même beaucoup plus dur pour Paris que pour Arsenal. Arsenal qui a pas eu en plus le 8e, nous, qui a été contre Monaco cette année.
Le match le plus dur, ça a été quoi? Le match retour contre le Bayern? Dans tout ce que tu viens de me dire. Tu prends toutes les équipes au moment. Ouais, allez, Monaco, à la limite, 1 sur 2.
Monaco, c'était dur.
1 sur 2 sur les deux matchs.
Même le match aller, ils ont fait un très bon match au match aller à Monaco. S'il n'y a pas cette expulsion de Golovin qui change un peu.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été, honnêtement, un parcours. Le parcours de Ligue des Champions, je ne minimise pas. Mais ça a été des. Non, mais ce que je veux dire.
À la limite. Rappelez-vous ce qu'on dit avant le match. Avant le match, Paris était même pas dans les favoris contre Chelsea. On disait qu'il s'est cramé, qu'il s'était cuit. On n'arrivait pas à faire un bon match.
Moi, j'ai vu Jérôme Bretagne trembler avant le coup d'envoi du PSG de Chelsea.
Ça a été notre premier grand match.
On parle bien de Chelsea qui a pas fini européen.
Oui, mais ça, c'est
ce que j'allais dire. C'est pour ça. Encore une fois, vous regardez là où ça vous arrange, en fait.
Ah bon?
Parce que vous êtes en train de dénigrer la première ligue, mais par contre, vous êtes en train de
citer. Premier à le dire avec, que la première ligue est plus faite cette saison qu'on essaie de faire.
Honnêtement,
c'est ça qui arrive.
Oh, Manu, arrête.
Vous prenez un argument et vous le tournez de façon opposée quand ça vous arrange. Manu, j'entends tout ce qui se dit. Là, ce qui est pas entendable, c'est ce que Steve nous dit par rapport au travail d'Arteta et au travail de Luis Enrique. Et maman, j'ai du mal à entendre ça.
Je comprends ce que tu dis.
En très peu de temps, Luis Enrique, en trois ans, même pas, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, une finale gagnée, et il est encore en finale.
Déjà pas très loin avant.
Mais comment, t'es pas très loin, tu prenais des plaques contre avant. Le Real.
Alors, ça va être en demi-finale l'an passé, hein.
Ce que veut dire
Steve, c'est que depuis des années, ces dernières années, depuis le confinement, tu sais que le PSG est la meilleure équipe en Champions League la décennie 2020.
Et puis surtout, c'est que tous les week-ends, ils font tourner.
Mais ça, c'est la vérité du championnat, ce que je veux dire.
Parce que les mecs ont dit,
le championnat aujourd'hui, alors apparemment, le championnat est facile aujourd'hui, alors qu'à un moment, quand le PSG se faisait sortir en Ligue des Champions, champion, tout le monde disait ah bah oui, ah mais s'il y avait un peu plus d'adversité en Ligue 1, eh ben ça serait mieux. Alors maintenant c'est mieux de pas avoir d'adversité. Non mais c'est incroyable.
Ce que je veux dire, c'est que regarde, on parle de Chelsea en Champions League. Honnêtement, tu prends Chelsea cette année, tu les mets à la place du PSG en Ligue 1, la même équipe, est-ce qu'ils gagnent pas la Ligue 1, Chelsea ?
Chelsea ?
Ouais, en Ligue 1.
Ils gagnent pas la Ligue 1 ? Je sais pas. Par contre, je te fais la même chose avec Paris. Ouais. Je pense que si Paris est en première ligue, ils sont champions tous les ans.
10 points d'avance.
Bah oui, voilà. Je suis d'accord, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas minimiser. Peut-être faut pas minimiser la première ligue, elle a la 5e ou 6e place.
Et l'OM top 5.
Peut-être pas 10.
Mais franchement, le 5e de première ligue, il est premier de Ligue 1.
Manu, c'est la vérité. On a mis des trempes à tous les clubs anglais. Il n'y a pas de problème.
Mais moi, ce que je te dis, c'est l'inverse.
Et on a fait le tour. Et on a fait le tour.
Ce que je dis, c'est l'inverse.
On a fait le tour, il n'y a pas eu deux clubs.
C'est ça. Tu mets Chelsea en Ligue 1, ils gagnent le championnat.
Vous êtes pas trop dans l'arrogance. Ça vous pend en nez.
Attends, le débat de 19h, ça va être rigolo.
Non, mais Manu, tu vas pas me dire que d'aller gagner à Burnley.
Merci
c'est
à Damien pour le PSG.
De toute façon, le PSG a pris l'escalator. Et puis, tu sais quoi, Arsenal a pris l'escalier. Mais à la réussite, au final, voilà.
Qui va prendre l'ascenseur.
Eh bien, ça, on verra.
Et qui c'est qui va la prendre? Qui c'est qui va prendre un stop?
Grand merci, Edgar Groulot.
J'ai un autre poème, si tu veux, sur cette même idée. Quand j'étais à l'ancien club de Luis Enrique, à la Brania. Ouais. Ils ont dedans un maillot signé par Luis Enrique. Bon, ouais. Quand tu signes un maillot, normalement, tu mets Luis Enrique avec amour. Ouais. Lui, il a signé le plus important dans la vie. Ça va très bien avec votre débat. Le plus important dans la vie, c'est pas d'atteindre tes objectifs, c'est jamais d'arrêter de lutter pour y arriver. Ne te rends jamais. Et donc, il serait fier de Mikel Arteta, qui a jamais arrêté.
Oui, exactement. Et ben voilà, une nouvelle façon de prouver qu'ils sont liés.
Plus Arteta ou Luis Enrique, toi?
Je suis plus poète, visiblement, déjà. Ouais. Mais non, en termes de jeu, Luis Enrique, quand même.
Merci, Rob, tu peux rester.
Allez, merci, Edgar. Allez, lire tout ça sur rmcsport.fr. Roland Garros, justement, on a vécu beaucoup d'émotions à Roland Garros. Jérôme, le passionné de tennis que tu es, je crois que tu as vibré devant Kwame. Magnifique Français qualifié pour le troisième tour.
Il va y aller. Il y a plus Sinner dans le tableau, en plus.
Sinner a été éjecté, le numéro 1 mondial.
Il a eu peur.
Et on a une Française sur les cours face à la numéro 1 mondiale. C'est Jacquemot face à Sabalenka. Salut Arnaud Valadon.
Salut à tous. Elsa Jacquemot qui est pour l'instant menée 2-1, mais elle ne s'est pas faite breaker sur le cours central juste avant. Diane Paris s'est imposée. C'est quand même une très belle journée pour nos Français avec la victoire de Moïse Kouamé. On en aura encore d'ici ce soir sur le très beau soleil de la Porte d'Auteuil. Pour l'instant, Elsa Jacquemot face à la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, se défend bien.
Merci. Arnaud, c'est incroyable. Et il a vraiment du pif, Eric Salio. Hein. Son jour de repos, il y a Kouamé qui fait l'exploit et Sinner qui se fait sortir. Ouais. Et Jacquemot va battre Sabalenka.
C'est pas de la connaissance de tennis.
C'est la marque des grands.
Il pue le tennis, Eric Salio. C'est fou. Hein. C'est bon. Bravo, allez, Eric, t'es un génie.
AMC, on vient rapidement. Arnaud, on se tiendra informé de ce qui se passe pour Elsa Jacquemot. Dans un instant, ce sera le procès dans Hotel Sans Flamme. Mais c'est le moment de vous inscrire au jeu de la liste des 26. Il reste quelques joueurs, c'est jusqu'à demain.
C'est vrai.
Vous pouvez remporter soit 10 000 euros en cash, soit le pack Coupe du Monde avec un vidéoprojecteur, le ballon officiel, le maillot des Bleus, la Coupe du Monde en Lego. Il faut envoyer liste par SMS.
Il reste le Chibonda de 2006.
C'est qui?
Malo Gusto.
Malo Gusto qui est là, tout à fait. Allez, dans un instant, on va ouvrir le procès de tous ceux qui pensent qu'il faut conserver Neymar dans la liste du Brésil. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h32 sur RMC. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme commence maintenant avec Manu Petit, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h à 18h45. Le Allo Jérôme avec encore un grand supporter du Paris Saint-Germain.
Et oui, la beauté du supporterisme, c'est Jean-Marc qui vit à Annecy et qui fait la plupart des déplacements pour aller voir le PSG à l'extérieur. C'est pas beau ça?
Quand t'aimes un club
Coupe d'Europe, Ligue 1, grand passionné du PSG qui ira à Budapest samedi. On est à moins de 48 heures de la finale de la Ligue des Champions.
Toutes les régions.
PSG Arsenal et à 19h un grand débat. Manu va être excellent. Est-ce qu'Arsenal serait un beau champion d'Europe? 32-16 pour en débattre avec
c'est
nous.
C'est quand ça?
C'est à 19h.
Ah.
Mais tout de suite le procès, on parle de la Coupe du Monde.
RMC.
Le procès de Roten sans flamme.
Ça va bien, toi? Voilà, bonjour. Aïe, 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 ouïouï. J'ai parlé français.
RMC.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Eh oui, Roten sans flamme, la radio et l'émission de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec la Dream Team qui sera mobilisée pour ce grand événement. Et le Brésil est fixé, messieurs. On a eu une mauvaise nouvelle côté brésilien. L'état de santé de Neymar communiqué par le médecin de la Fédé cet après-midi. Neymar, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, qui souffre d'une blessure musculaire au mollet. Il sera absent 2 à 3 semaines. Donc il manquera, quoi qu'il arrive, les 2 matchs de préparation du Brésil face au Panama et à l'Égypte. Neymar, 34 ans, va également louper au minimum le premier match des Brésiliens à la Coupe du Monde face au Maroc le 14 juin. On rappelle qu'il a été appelé à la surprise générale par Carlo Ancelotti après quasiment 3 ans d'absence en sélection. Il s'est blessé avec Santos quelques heures seulement après l'annonce de la liste. On va ouvrir le procès de tous ceux qui pensent qu'il faut conserver Neymar dans la liste du Brésil. Le procureur, c'est Manu Petit. Bonsoir.
Bonsoir.
Les avocats de Neymar dans ce dossier sont Jérôme Bretagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et Steve Savignan.
Voilà, des artistes et puis un destructeur.
Exactement. Voilà. Et le verdict sera rendu par Arnaud au 32-16. Salut Arnaud.
Bonsoir. Bonsoir l'équipe.
Sois le bienvenu. Salut. Arnaud. Manu, pour toi, c'est risqué de conserver Neymar dans la liste du Brésil, vu la blessure et le délai d'indisponibilité.
Déjà, je tiens à dire que je suis très amoureux de Neymar, le joueur. Sauf que ça fait 3-4 ans qu'il n'est plus joueur de foot. Et que je pense que c'est plus une décision politique d'Ancelotti pour avoir justement la paix sociale. Puisque quand à l'annonce justement de la liste et du nom de Neymar, ça a été une explosion de joie quasiment dans tout le Brésil. Mais je pense même pour tous les amoureux de football. Moi y compris, j'étais très content de voir Neymar aussi, dans la liste. Sauf que je me suis dit, mais comment ça va se passer? Parce que j'ai encore regardé ces dernières semaines ce qui se passait du côté du Brésil. Il joue des bribes de match, il est souvent blessé, ça fait 3-4 ans que ça dure, et qu'au final, je veux bien que Neymar soit un joueur tellement emblématique, une superstar, et qu'il redonne l'espoir à tout un pays dans ce mondial-là. Il y a quasiment plus de stars dans cette équipe-là, de joueurs qui nous font rêver, qui dansent la samba sur le terrain. Donc très content lorsque son nom a été cité, nommé dans la liste. Mais quelque part, pas surpris du tout de ce qui s'est passé derrière. Donc la communication de Santos, en plus son club, je pense que ça va faire du bruit dans les prochains jours, parce que je pense qu'il y a eu un mensonge. On a caché des choses sur sa réelle blessure.
Et ça prouve la pression populaire qu'il y a autour du cas Neymar.
C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Ancelotti, en le prenant, il se dit, si jamais il arrive à me faire des matchs ou des bribes de matchs, c'est un pari gagnant, parce que peut-être que sur une action, il peut être un match winner et décisif et te faire basculer à une rencontre. Il peut entraîner aussi tout un effectif dans un vestiaire, amener aussi les claques dont a besoin aussi cette équipe-là, qui ça fait longtemps qu'ils sont dans l'ombre de tout le monde. Mais sincèrement, c'est un cirque qui ne s'arrête jamais en fait autour de Neymar. Alors c'est le premier à en pleurer. Je l'ai vu pleurer à l'annonce de son nom dans la liste, et je l'ai trouvé très émouvant. Et franchement, j'ai qu'une envie, comme tous les amoureux, c'est qu'il soit présent au mondial, mais apte, pas dans cet état-là.
Je parle même pas
des joueurs qui n'ont pas été pris à sa place et qui ont réalisé certains une bonne saison et qui peuvent se dire c'est une injustice. Mais bon. Je respecte Ancelotti et Neymar également, mais sincèrement, depuis 3 ans, il n'est pas joueur de foot. Donc c'était un miracle qui n'est jamais arrivé en fait. Et le conserver dans la liste, imagine au bout de 3 semaines, il sort de sa blessure. Et comment il va faire pour retrouver un niveau physique? Donc ça veut dire quoi en fait? C'est un cirque en fait.
Bon.
Truc.
Parole à la défense, Maître Rotten.
Oui, après ce que dit Manu, ça s'entend, parce que quand t'as joué au football de très haut niveau, là on parle d'un football de très haut niveau, c'est sûr que quand t'as une blessure juste avant le rassemblement, et que elle te laisse de côté pendant 15 jours 3 semaines, alors ça veut pas dire que pendant 15 jours 3 semaines il va rien faire. Donc j'espère juste que, et moi je pars de ce principe-là, et c'est pour ça que j'ai envie de défendre la présence de Neymar dans le groupe, c'est que je me dis que pendant 15 jours 3 semaines il va pouvoir quand même physiquement faire des choses pour pas tout perdre. En effet, une fois qu'il pourra accélérer,
comment tu vas faire au bout de 15 jours, son mollet qui est atteint.
Je sais pas. Écoute,
il peut même pas faire du vélo.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que des blessures au mollet, t'as dû en avoir. J'en ai eu aussi. C'était un mal récurrent que j'avais en fin de carrière. Alors je dis pas qu'il a la même chose, parce que je suis pas dans la.
Apparemment, il avait une boule.
La tête. Il avait un œdème.
Ouais, un œdème musculaire.
Donc en effet, si c'est blessure musculaire avec un œdème, je sais pas si c'est vraiment une petite déchirure ou pas. Si c'est une déchirure, là, c'est mal barré. Maintenant, quand ils te disent 15 jours d'arrêt, mollet, pour moi, c'est pas une énorme blessure. Donc, ça veut dire que très vite, il va pouvoir reprendre.
Ils disent 2 à 3 semaines. Hein.
Non, mais d'arrêt pour.
Mais tu les crois vraiment, t'entraîner. Jérôme?
Ouais, c'est ça aussi. T'as raison,
Manu. Quand on voit comment ils ont privatisé la clinique pour que rien ne sorte.
C'est vrai.
Moi, je trouve ça chelou.
Manu, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils prennent un risque. Peut-être que Neymar, ça se trouve, on le verra même pas de la compétition parce que les premiers matchs forfaits, on sait pas ce qui peut se passer. Ça peut aller vite, surtout que le Brésil a pas une équipe incroyable. Ils peuvent se faire attraper déjà sur le premier match contre le Maroc. Mmh. Celui-là, il est pas gagné.
Ouais, c'est vrai.
D'accord. Donc il y a ça. Après, pourquoi je le défends aussi, c'est que il a un tel aura dans ce groupe. On voit les joueurs qui sont très contents depuis qu'il est appelé.
C'est un artiste.
Peut-être que ça va les libérer d'un certain poids parce que lui, il va prendre beaucoup de lumière et peut-être pression. Qu'ils ont besoin de ça et Ancelotti mise là-dessus. Et après, s'il y a une bonne surprise, tant mieux. On parle de 26 joueurs, Manu. Toi, à l'époque, c'était 22 joueurs. Mmh. Après, c'est monté à 23.
Ouais, je sais ce que tu veux
là,
dire.
On est à 26.
Pour le prendre.
Ouais, écoute, sauf si ça avait été à 22, je te dirais, non, là.
Ouais, mais
là,
ce qui va pas cristalliser, justement.
Eh oui, le seul dont on va parler, c'est Neymar.
Mais est-ce que toutes les tensions de la presse autour de la sélection, tu vois.
Est-ce que c'était pas voulu? Ça, de la part d'Angelo.
Ouais, s'il était opérationnel. Non, mais là, même, il l'est pas. Donc, même tout le monde va revenir au choix initial d'Ancelotti.
Je pense que ça va tellement. Regarde, ça nous fait parler déjà. Ça fait tellement faire parler. Ah, peut-être que ça va atténuer un peu la pression qui est quand même énorme.
Alors, ouais. Juste pour. À titre de comparaison, imaginez ça en France avec Kylian Mbappé.
Ouf. Ouais, bah, c'est pareil. C'est ingérable.
Par contre, le bordel.
Bah, on l'a vécu en 2002 avec Zidane.
Exactement, mais. Ouais, Zizou, il est arrivé blessé.
Ou toi,
blessé en amical.
Il s'est blessé contre la Corée.
Bien sûr.
Il n'aurait jamais dû jouer ce match-là.
Il n'a pas joué les deux premiers matchs de poule, il a joué le dernier.
Ouais. Il est blessé, il s'est blessé
toi,
juste avant.
Et toi, tu me disais, là, encore dernièrement, que c'était de sa faute.
Mais la caméra quand il dit ça, parce que tu n'as pas l'air convaincant, en fait. Voilà. Vous avez vu comment il se fout de moi?
Non, mais en fait, je pense que Manu, en fait, là où il se trompe, c'est parce qu'il voit le Brésil en demi-finale ou en finale. Au vu de leur effectif, au vu des dernières années du Brésil, honnêtement, je pense qu'ils visent quart de finale et une belle surprise. Donc en fait, Ancelotti, je pense qu'il est très pragmatique. Il se dit, je rejoins ce que dit Jérôme, on va mettre Neymar, politique, ça va les supporters, ça va être nickel. Il est blessé, bon, on le conserve. Il va attirer tous les projecteurs sur une nouvelle génération. Moi, je pense que Ancelotti, il n'est pas là que pour cette Coupe du Monde, hein. Moi, je pense que Ancelotti, là, il va se servir de cette Coupe du Monde. Ouais. Donc, son objectif, parce que lui, s'il y en a quelques-uns sur la planète, s'il y en a quelques-uns sur la planète qui connaissent un peu mieux le football que nous trois réunis, je pense qu'Ancelotti, il en fait partie. Et avec quelques-uns d'autres, ils en font partie. Donc, Ancelotti se dit, cette année, quart de finale, honnêtement. Donc, moi, si surprise, demi-finale et plus loin. Mais en fait, faut pas se dire, le Brésil va aller en finale. Le Brésil va aller en demi-finale. Donc, un Neymar à 70%, quand tu regardes le tableau, quand même, leurs adversaires, le Maroc, Haïti, l'Écosse, honnêtement, non, mais attends, ils passent déjà pour moi, honnêtement, ils tombent pas dans le piège. Déjà,
Imagine, tu te viandes contre le Maroc.
Mais attends, le meilleur troisième, oubliez pas, le meilleur troisième passe.
Haïti, l'Écosse.
Non, le meilleur troisième passe en moitié de 16e de finale. Donc honnêtement, ils vont tomber derrière contre les 16e de finale. Est-ce que vous avez regardé les potentiels? Honnêtement,
alors moi je suis pas d'accord avec toi, faire. Steve. Pourquoi?
Donc au final, tu vas te dire que le Brésil va faire, honnêtement, s'ils passent, allez, la première poule, ils vont faire 5 matchs pour arriver en quart de finale. Ils sont en quart de finale avec 5 matchs. Donc ça veut dire que Neymar, s'il en rate un, est-ce que tu penses pas que Neymar sur 4 matchs, 4 fois 90 minutes, il est pas capable de t'enchaîner 50 à 60 minutes.
Non, il n'est pas capable.
Bah, il blessé. Moi, je pense que.
Moi, je suis capable.
Justement, je pense que tu vois.
Pas capable.
Je pense que Manu.
Qui a tellement
et
été blessé dans sa carrière.
Toi, tu sais, parce que t'es un grand champion, Manu. Je pense que.
C'est vrai, ça.
Tu es capable de le faire. Et la preuve en est, c'est qu'il y a certains joueurs. Comment il s'appelle, notre joueur français qui s'est sacrifié pour la Coupe du Monde et il a pété son genou.
Bah, il bosse sur RMC.
Tu leur demandes aujourd'hui. Est-ce que tu veux protéger ton genou ou gagner la Coupe du Monde? C'est ce qu'il va te dire. Je continue à faire ce que j'aurais fait. Donc là, Neymar, c'est la dernière opportunité qu'il ait de briller, de rendre son peuple fier.
Steve,
il y a une telle pression. Moi, j'ose croire que sur 4 matchs,
moi aussi, j'aimerais le croire, mais ça relève du miracle. Maximum.
Steve, ça relève du miracle.
Tu sais quoi, Manu,
sera mieux.
Moi, je suis pas croyant.
Combien de fois Neymar a joué avec des blessures? Il a joué très souvent avec des blessures.
Comme beaucoup de grands champions.
Mais parce qu'il sait très bien que son corps l'a depuis des années.
Manu, oublie 2002. Zidane, oublie. Oui. Pense que 2026 avec Neymar, ça sera mieux.
Le format de la Coupe du Monde a changé, Manu.
J'ai pas suivi, j'ai raté un wagon.
Mais toi qui as jamais digéré l'affaire de Zidane en 2002, Ça y est, faut passer à
la
autre
blessure,
chose. Le format de la Coupe du Monde a changé. Ah, c'est
putain,
Coupe
les mecs, du Monde, la 48 équipes. On parlait de 2002, alors qu'on est en train de parler de Neymar, la Coupe du Monde 2026.
Mais sur la blessure, moi, je me suis dit avec
c'est l'expérience. C'est le comique de répétition de Jérôme, ça.
Non, mais lui, c'est un boulet. Ah.
Eh ben, allez, le verdict d'Arnaud.
Toi, 19h, tu vois.
Arnaud, 32-16. Qui remporte ce procès, alors?
Merci, Arnaud.
Mais sans aucune hésitation, Monsieur Petit.
Ah, Monsieur Petit. Petit.
Remporte. Ah oui, mais oui. Monsieur Rotten, Monsieur Savidan, ne faites pas appel, vous serez recalé. Vous serez recalé. Les
Arnaud, tu viens d'où?
Des Yvelines, Jérôme.
Alors, voilà. Bah, en plus, t'es pas loin. Bah, ouais.
Est-ce que tu attends,
tu vois passer, cache-toi. Hein,
Laissez-le développer.
Alors. Arnaud, je suis persuadé qu'Arnaud, il adore Neymar en plus.
T'es supporter de quelle équipe?
Dans les Yvelines de Versailles.
Bah oui.
Ah, donc t'es déçu du passage de Neymar au PSG?
Je m'en fiche de ça, je suis objectif, je me suis uniquement basé sur vos arguments.
Ah, bah
si par exemple t'as sorti un argument qui disait
une banane,
on sait jamais à partir des quarts de finale, il peut faire 4 fois 60 minutes. S'il fait
non,
ça,
je t'ai pas dit ça.
Les deux oreilles.
Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit au vu de leur tableau, le Brésil.
Ils peuvent aller en quart de finale.
Non. Moi je pense qu'ils peuvent aller au maximum jusqu'en quart de finale. Donc potentiellement s'il rate son premier match, ça veut dire que pour aller en quart de finale, ça lui fait 2 à 3 matchs.
De toute façon, ils vont déjà faire
pour les Marocains le premier
16e, match. 2 à 3 matchs.
16e, 8e, c'est tout droit, les Marocains.
Il ne les fera jamais 4 fois 1h. Il n'y arrivera pas. Non. Et qui vous dit qu'il est blessé seulement 3 semaines?
Manu, c'est ça le truc, t'as raison.
Bien Manu sûr. A tout dit.
Ah ça, oui, mais forcément, on se base sur ce qu'on sait.
Si on ne fait pas confiance au docteur.
Bien sûr. Si toi, tu nous donnes, si tu donnes l'info qu'il est malade ou il est blessé pendant un mois, là, forcément.
Là, on va revoir notre verdict.
Là, on dit, il a un œdème au mollet, c'est 2 en 3 semaines.
Steve, d'ailleurs, il a fait combien de matchs cette année?
C'est plus dur à remettre, messieurs. Soi-disant que le mollet, c'est plus compliqué à remettre.
C'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que
pour un joueur comme lui, qui est plus
Anthony, c'est vrai que c'est chiant. Mais en fait, Arnaud, là où on s'appuie avec Steve, c'est ce que la communication du staff médical.
Bien sûr.
Après, peut-être qu'il nous mente. Manu, il a peut-être raison.
Il a peut-être raison, Manu.
Peut-être qu'il cache, il masque.
Naïf quand même, Jérôme.
Bah, je me dis
ils nous disent jamais la vérité, les staffs
c'est
médicaux.
C'est vrai. Je me dis 15 jours, ça me paraît faible par rapport à un œdème au mollet.
Il y a différentes façons de faire. Par exemple, le Barça est très prudent.
Qui joue toujours sur la pointe des pieds. Le mollet, oubliez les gars. Bon. Pour moi, c'est out.
Arnaud, bravo pour cet avis tranché.
Il bosse avec le docteur de Armstrong à l'époque, donc peut-être.
Non.
Docteur Müller aussi.
On rigole.
Müller, Wolfhard Müller.
C'était le sang de cheval. C'est vrai, c'était le sang de cheval, docteur Müller.
À courir comme un bourrin.
Toi.
Allez, dans un instant. Allô, Jérôme.
Une petite piqûre.
Jean-Marc, supporter parisien qui vient à Annecy et qui fait tous les déplacements.
Une piqûre, un cheval.
Détour par Roland Garros. Arnaud Valadon, comment se comporte Elsa Jacquemot contre la numéro 1 mondiale?
Et si on assistait à encore une numéro 1 mondiale qui sortirait après Yannick Sinner?
Ouais, il est super, ce Roland Garros.
Ça serait une Française, Elsa Jacquemot, parce que pour l'instant, dans le premier set, Elsa Jacquemot rivalise 4 partout. Service à suivre pour Arina Sabalenka. Maintenant, va falloir être clutch, comme on dit, conclure les points chauds. Tu sais bien ça, Jérôme.
Ouais.
Mais franchement, elle résiste bien, notre Française, clutch. Elsa Jacquemot.
Merci Arnaud, la suite de ce match dans un instant.
Eric Salio, il a senti le coup.
Eric Salio, il a le pif pour être là.
Sabalenka.
Dans un instant, allô Jérôme, restez avec nous sur
Roust.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h50 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme, avec un bon allô Jérôme encore aujourd'hui, avec un supporter historique du Paris Saint-Germain qui va arriver dans un instant. On est avec Manu Petit, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Et Benoît, après 19h, un magnifique thème.
Roten se chauffe à moins de 48 heures de la finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'Arsenal serait un beau champion d'Europe? 32-16 pour en débattre avec nous.
Il est déjà je trouve ça mais vraiment d'une condescendance cette question.
C'est Jérôme qui m'a demandé de le faire.
Comment c'est possible de poser une question? Le manque de respect que vous avez pour Arsenal.
Mais Jérôme m'a dit, il voulait faire.
C'est la tradition du dénigrement que je vois dans les médias français depuis plusieurs semaines.
Il voulait faire. Est-ce qu'Arsenal est pitoyable? Je lui dis non, c'est un peu fort, pitoyable.
Un peu fort.
Je dis ça un peu trop.
Je vous trouve irrespectueux en fait.
Allez,
est-ce que c'est un champion d'Angleterre au rabais?
Voilà, vous voulez faire ça non, aussi, mais vous voulez ménager.
Tu sais que lui, il est sournois hein, quand même.
Faites attention, les gars, l'arrogance que
nous avons.
Ça vous pend au nez. Ah ouais, rien peur. La deuxième étoile, elle est déjà brodée. C'est terminé.
Et puis, je peux te dire qu'elle n'est pas rouge. J'aimerais bien avoir votre tronche si jamais il gagne.
Moi, je ne serais pas trop déçu.
Elle est bleue comme ta chemise.
Je suis supporter marseillais, je ne comprends pas en plus.
Je me régale à mon regarder.
Ça y est, mais il n'est plus supporter marseillais.
Ah, ça y est, il a tourné ça.
Accueillons un vrai supporter.
Sa fille et sa femme. Il est obligé, sinon il divorce.
Ah, c'est l'amour de ma fille, qu'est-ce que tu veux. Allez, c'est parti.
RMC, Hôtel
Sans Flamme.
Les supporters emblématiques du PSG mis à l'honneur tous les jours en cette semaine de finale de Ligue des Champions à 18h45. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc, supporter parisien qui vit à Annecy, qui est en direct dans Rotten sans flamme.
Salut JM.
Salut tout le monde.
Salut Jean-Marc.
Bonsoir. Un plaisir de t'accueillir dans mon émission. Je suis ravi de partager ces moments-là, ces petites dernières.
De supporters du PSG,
ces
cool.
Minutes importantes. Bah, quoi.
Entre supporters, vous entendez bien.
Bah écoute,
c'est à 8h-20h en ce moment sur
Rotten sans flamme. Mais tu parles. C'est normal. On parle du champion d'Europe et on va pas.
Du double bientôt.
Bon Jean-Marc, c'est la première fois. Bon, vous laissez parler Jean-Marc, est-ce que tu es confiant?
Vas-y Jean-Marc.
Franchement, je suis confiant. Tu sais, mon objectif, Jérôme, c'est de refaire comme l'année dernière. L'année dernière, on s'est serré dans les bras à Munich. Ouais. Le challenge, c'est de faire la même chose. On a des vidéos, des photos.
Avec
vous
plaisir.
Vous
êtes serré
dans les bras. On fait la même chose.
T'en fais pas.
C'est l'idée. Ouais, je suis.
On est à Budapest, ouais, on peut faire un peu plus.
Non.
Tu vas voir. C'est plaisant. T'en fais pas, je la connais.
Jean-Marc,
j'ai quelques adresses. Il y a des très beaux musées. Mais le problème, c'est qu'à minuit, ils sont pas tous ouverts.
Justement, la finale, c'est à 18h. Donc à 20h, vous vous servez dans les bras.
Non, mais Jean-Marc, comment tu l'appréhendes par rapport à l'année dernière, cette finale?
Franchement, j'ai vraiment confiance parce que à chaque fois qu'on a douté, finalement, Luis Enrique et l'équipe ont montré quand même qu'il y avait toujours de la résilience. Donc pour moi, le plan est déjà là et j'ai aucun doute qu'on va le faire.
Raconte-nous ton histoire d'amour avec le PSG, Jean-Marc. Ça vient d'où? C'est parti de quoi?
Ça vient. J'étais à Paris et puis c'est surtout, tu sais, quand ton père, dès que t'es tout petit, t'emmène au stade.
Ah oui.
À l'époque, on était avec, ça remonte avec l'épopée Rai, Ginola et autres.
Ah ouais, magnifique.
Et puis après, tu vas au stade et puis tu continues à suivre ça. Voilà, le 96. Après l'arrivée de Jérôme, forcément.
T'as pas voulu changer de club à ce moment-là, Jean-Marc?
Mais Jérôme, arrête de payer tes frères et sœurs là aussi, là, tes cousins.
Vous pouvez laisser parler Jean-Marc.
Il a mis Jérôme
pour une fois qu'un auditeur est intéressant.
Non mais que rail. Non mais sans déconner.
Mais tu tiens, tu es tombé dans les bras.
Laissez Jean-Marc exprimer.
Coupez-moi le micro de Steve.
Laissez-le parler.
Il a dit rail 96.
Et toi?
Il y a quand même Ronaldinho 2001-2003, il y a Jérôme 2004-2009, mais globalement, il y a eu aussi un tournant, on le sait tous, en 2011 avec l'arrivée des Qataris. Pour moi, on a passé une autre ère, mais c'est vrai qu'on a eu des stars, Zlatan et autres pendant ce temps-là, mais je pense qu'on est arrivé à un stade de maturité. Et pour moi, je suis totalement fan. D'ailleurs, je fais de la collection de maillots, tu vois, j'ai même un maillot de certains joueurs emblématiques. Et pour moi, c'est juste inespéré ce qui se passe. On y est croyant en 2020. On l'a fait en 25 et puis j'espère qu'on va le faire en 26 aussi.
Jean-Marc, tu vis à Annecy, mais tu fais beaucoup de déplacements, hein,
ouais.
C'est ça?
Jean-Marc Rotten.
Ouais. T'as vu un peu?
Vas-y Jean-Marc, vas-y.
Ouais. J'aime bien Arsenal, mais non, c'est pas...
Ouais, ils sont gentils, quoi.
Je fais à peu près une dizaine d'allers-retours par an. J'ai suivi l'année dernière toute l'épopée de Liverpool à Birmingham, en passant par tout ce qui pouvait être vu, et puis au parc aussi cette année, Tottenham et autres.
Ah,
parce que quand on suit un club, tu vois, c'est pas parce que je suis parti de Paris que je laissais le club. Et donc non, mais j'ai que des bons souvenirs et je j'emmène aussi mes enfants parce que c'est important, tu vois, de transmettre.
La transmission a marché alors ? Il n'y a que des fans du PSG dans la famille ?
La transmission, il n'y a que des fans du PSG, okay. Noah, Maë, Matisse. Ils sont fans du PSG et tu vois, j'ai même un club de foot à Annecy. Je suis président d'un club de foot qui s'appelle l'ASP Villaz.
Ok.
Et j'essaye de tous les convertir au foot parisien.
Tu vois. Et ça marche alors ou pas ? On aime qui alors à Annecy en termes de club ?
On est beaucoup entre Lyon, Paris et Marseille. Mais je suis arrivé à la présidence, je crois qu'il y a beaucoup plus de membres du comité parisien.
Jean-Marc, t'as toujours pas ta VO.
J'ai toujours pas ma VO, ouais.
Il va falloir que tu m'appelles, là, hein, pour faire progresser ton club.
Bah oui.
La VO, c'est ce qui est commercialisé par Steve Savidan. C'est la caméra pour filmer les entraînements, c'est ça, Steve.
Écoute,
je te ferai une bonne offre pour m'avoir fait rire d'avoir mis Jérôme Rotten dans la liste des stars.
Non, t'obliges pas à acheter ça.
T'abuses pas à acheter ça, ça sert à rien. Écoute, reste focus sur le PSG. Bon, tu vas à la finale, Jean-Marc?
Ouais, je pars dès demain, donc je pars demain là avec un pote, Christophe. On part demain, tu l'as déjà vu d'ailleurs, Jérôme, je crois. Christophe, on part demain, on arrive à Vienne, parce que c'était pas évident de trouver. Là, ça va être un repas de famille. On arrive à Budapest, et puis après, c'est la folie samedi jusqu'à point d'heure. Donc le programme, il est là, quoi. Hein,
Jean-Marc, c'est la même émotion que l'année dernière ou c'est différent?
Bah, franchement, ça fait une émotion quand même bizarre parce que tu vois, je pense que cette émotion là je l'ai vraiment ressentie quand il y a eu PSG Bayern où on était avec une banderole des ultras là qui mettaient à la reconquête de l'Europe, et ça m'a fait vraiment la sensation qu'on était encore plus un grand club qu'on pouvait l'imaginer. Donc j'ai vraiment hâte que ça arrive, quoi. Donc j'ai pas de doute qu'on va y arriver.
Merci Jean-Marc. Bonne finale à toi. Régale-toi à Budapest. Le petit câlin avec Jérôme, ça va te porter bonheur.
C'est important parce que sinon.
Jérôme, il faut le câlin.
Il faut parce que sinon on va pas la ramener. Donc on va se croiser.
Ce qu'on va faire, c'est que sur les réseaux sociaux de Rotten sans flamme, on mettra l'heure d'arrivée de Jérôme à Budapest. Vous pourrez tous lui faire un câlin. Comme ça, on communiquera demain.
On saura tu là.
Exactement. Merci Jean-Marc. Bye bye. Bonne finale.
Salut Jean-Marc.
Merci à tous, merci.
18h58 sur RMC. Il y a 5 partout dans le premier set entre Sabalenka et Elsa Jacquemot, la jeune française, face à la numéro 1 mondiale. On retrouve Arnaud Valadon dans un instant. Et surtout, on ouvrira le débat. Rotten se chauffe. Est-ce que Arsenal serait un beau champion d'Europe ? On vous attend au 32-7. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.